l'écriture à la bombe atomique, les grandes inventions et découvertes jalonnent l'histoire, changent la vie quotidienne des hommes, bousculent les croyances et font avancer les connaissances. À bord de l'Odysseus, nous allons voyager à travers le temps et l'histoire pour découvrir ou redécouvrir les inventions et découvertes qui ont façonné la société humaine et son environnement. Je suis Erwan, capitaine de bord de l'Odysseus. Installez-vous et laissez-vous porter à travers le temps, tandis que je vous propose un peu de musique, le temps que vous preniez place. Sur Radioactive 101.9 FM à bord de l'Odysseus. La semaine dernière, nous avons commencé un voyage à travers l'histoire des bateaux, invention majeure de l'homme qui aura permis d'explorer le monde qui l'entoure. Nous avons vu comme une simple coquille de bois, l'homme a modelé les navires pour leur permettre de traverser les mers et océans. Du passage de la pagaie à la voile, en passant par les débuts du gouvernail, au moyen de se repérer grâce à la boussole ou encore l'astrolabe. La prise de possession de ces découvertes par les Européens, simultanément avec le début d'une nouvelle ère de prospérité politique, enclenche un processus d'amélioration continue de la technologie des bateaux. Vers la fin du XIVe siècle, les navires comme les cogues commencent à être systématiquement équipés de tours installées sur le pont, à la proue et à la poupe. Ces tours permettent d'augmenter la distance de tir en donnant l'avantage de la hauteur, en particulier aux archers, et permettent aussi de provoquer des dégâts importants sur les navires adverses avant de passer à l'abordage. mais ces navires restent polyvalents et servent autant au commerce et à la guerre qu'à l'exploration. Ces tours rendent le navire instable et au XVe siècle, les caracs et les caravelles, qui ont supplanté les cogues, abandonnent la fonction militaire qui était confiée à des navires beaucoup plus stables et mieux préparés à cette mission. Les tours sont progressivement remplacées par des bateaux installés à la proue et à la poupe, comme sur le Santa Maria de Christophe Colomb, faisant partie intégrante du navire. Une invention va révolutionner la marine, l'invention ou la redécouverte du bordage à franc-bord permet une autre innovation beaucoup plus décisive, celle du sabord et de l'artillerie qui est associée. Le bordage à franc-bord existe pourtant depuis l'Antiquité et est utilisé sur les trirèmes par les Grecs qui les montent à l'aide de tenons et de mortaises. Mais le bordage à clin, les virures se chevauchent les unes des autres comme un toit de tuiles, lui est longtemps préféré pour des raisons d'étanchéité. Le calfatage efficace des virures permet de redécouvrir les vertus du franc-bord. Ce bordage robuste et étanche, solidement fixé à la membrure de la charpente du bateau par des clous en fer et des gournables en bois, permet d'envisager d'y créer des ouvertures obstruables sans fragiliser l'ensemble. Au VIe siècle, l'usage du franc-bord et des sabords se généralise sur les galions, qui, bien que mieux adaptés aux missions militaires, conservent encore un usage polyvalent. Ces sabords incitent à une autre innovation, celle des ponts multiples, qui permettent d'augmenter le nombre de sabords et donc la puissance de feu. Le combat au canon impose de se doter de navires plus rapides, plus faciles à manœuvrer. Les Anglais modifient leurs navires en conséquence et font la preuve de l'efficacité de leur doctrine. En 1588, ils vainquent l'invincible Armada, flotte d'invasion armée par Philippe II d'Espagne pour conquérir l'Angleterre. Abandonnant l'idée d'abordage systématique, ils concentrent leurs efforts sur la puissance de feu et la formation des canonniers afin d'anéantir la flotte ennemie. La marine de guerre est née. Parallèlement à la spécialisation militaire, on constate entre l'Antiquité et la Renaissance une différenciation de plus en plus nette entre marine de pêche et marine commerciale. La pêche reste et restera jusqu'à la fin du XIXe siècle une activité essentiellement côtière, de cabotage, pratiquée par des individus ayant par ailleurs peu de moyens financiers, donc utilisant des bateaux de petite taille. Le commerce maritime, lui, connaît un essor progressif qui pousse à l'emploi de grands navires, tels que les gabarres affrétés par les compagnies maritimes aux moyens financiers importants. Cette activité de commerce reste également associée, en Europe du moins, à l'activité exploratoire qui s'autofinance par les retombées commerciales de l'exploration. Au début du XVIIe siècle, le Royaume d'Angleterre compte environ 150 vaisseaux de guerre armant de 30 à 100 canons. À la fin de ce siècle, sous le règne de Louis XIV et l'impulsion de Colbert, la France rattrape son retard et compte une centaine de vaisseaux de guerre actifs. Et à la mort de Louis XIV, la Royale en a fait construire 381. Lors de la première moitié du XVIIIe siècle, la marine française met au point progressivement un nouveau type de navire de ligne, du second rang, portant 74 canons, dont le premier représentant est le Bourbon. Un grand nombre d'exemplaires est construit variant pour les dimensions et quelque peu pour la disposition de l'armement. Un certain nombre d'exemplaires sont capturés, en particulier par la Royal Navy, qui, après les avoir utilisés, entreprend de construire des modèles similaires. Finalement, ce type de navire devient vite l'ossature de toutes les flottes de combat européennes. À la sortie de la guerre de 7 ans, sa flotte décimée, la France lance un nouveau programme de construction navale. Sous l'impulsion du chevalier Jean-Charles de Borda, assisté par l'ingénieur naval Jacques-Noël Sané, les types de bâtiments sont normalisés grâce à l'établissement de plans à l'échelle 1/48e et les pièces, en particulier la mâture, sont standardisées. Le plan du vaisseau de 74 canons est dressé pour la construction du vaisseau téméraire, qui devient ainsi le chef de file d'une longue série suivie de la classe Tonnant, navire de ligne à 80 canons. Ces vaisseaux de 56 mètres de long nécessitent chacun 2800 chaînes centenaires pour leur construction, ainsi que 40 km de cordage. Ils emportent un équipage de près de 800 marins et soldats. La création préalable quasi systématique de modèles au 1/48e permet aujourd'hui d'admirer dans les musées nationaux des grandes nations maritimes ces bateaux richement décorés et représentant le sommet dans l'art de la marine à voile. À l'autre bout du globe, une autre culture se développe au moins autant que la culture européenne. La technique maritime dans la partie asiatique du globe se développe d'une façon a priori assez similaire à celle de l'Europe en termes d'efficacité et de complexité des bateaux. On peut noter des références d'action navale japonaise dans les rapports de l'invasion mongole du Japon par la marine de Kubilai Khan en 1281. Marco Polo rapporte que Kubilai Khan entretient 15 000 navires près de l'embouchure du fleuve Jaune. Le Japon ne dispose pas d'une marine comparable à la marine mongole. Bien que très peu de documents existent relatifs à la marine mongole, il est probable qu'ils permettent à cette époque le lien entre connaissances technologiques européennes et asiatiques. En Chine, la navigation en haute mer évolue très tôt et très rapidement. Les premières traces de l'existence de navires en Chine nous font remonter aussi loin que le 3e millénaire avant Jésus-Christ. On sait par un document chinois qu'au début de notre ère, une ambassade romaine fut envoyée en Chine et que la dernière partie de son voyage se fit vraisemblablement à bord d'une jonque chinoise.
We come here down in the 1920s, my daddy did, and there was four of us boys. You didn't have running water. You had to take a bath in a pressure pump. You washed your clothes in a wash pot. You caught your water off the roof of the house, drinking water. It's a lot different.
We're all in the same boat, fishing in the same hole, wondering where the same time goes. We're all in the same boat. We can all believe. Same broke hearts, wishing on the same stars.
Active 100.9 FM à bord de l'Odysseus. Cinquante ans avant Christophe Colomb, Cheng He, Cheng signifiant gouverner ou être à la barre, parcourt le monde à la tête d'une armada gigantesque pour l'époque, dont les plus grandes jonques comptent 9 mâts, mesurent 130 mètres de long et 50 mètres de large, à comparer aux 30 mètres de long et 8 mètres de large de la Santa Maria. L'armada de Cheng He emporte 30 000 hommes à bord de 70 vaisseaux. Pour bien imaginer l'avance technologique que la marine chinoise possède alors sur la marine européenne, il faut comprendre qu'une telle armada aurait anéanti sans difficulté l'ensemble des flottes européennes et aurait pu permettre la colonisation de l'ensemble de l'Europe et de la Méditerranée. Mais la culture chinoise n'est alors pas une culture prédatrice, comme celle des Européens, et leurs intentions sont pacifiques. L'objectif des expéditions se limitant à vanter la gloire de l'empereur chinois et à établir des relations avec les autres cultures. Les expéditions ne peuvent pas s'autofinancer par l'exploitation des terres et les populations colonisées. La poussée mongole le long des frontières nord de l'Empire du Milieu contraint l'empereur à abandonner sa marine afin de consacrer toute sa puissance financière à la construction et au renforcement de la Grande Muraille de Chine, au point de faire détruire tous les documents relatifs à la technique de construction des jonques. Faute de moyens et de volonté politique, la marine chinoise disparaît et ne réapparaîtra qu'au milieu du XXe siècle. Si la marine nationale disparaît, il n'en est pas de même des bateaux. Au XVIIIe siècle, le père Bernardine, des missions portugaises, écrit qu'il existe tellement de bateaux que l'on dit communément que l'empereur pourrait établir un pont de bateaux entre la Chine et Malacca, qui est à 500 lieues de distance. Au XIXe siècle, les Britanniques estiment qu'il y a plus de 40 000 navires dans le seul port de Canton et ses environs. Le Japon entreprend un considérable effort de construction navale au cours de l'époque Sengoku, située entre le XVe et XVIIe siècle. Les grands féodaux qui luttent pour la suprématie font construire de grandes flottes côtières de plusieurs centaines de bateaux. Les plus grands navires construits au Japon au XVIe et XVIIe siècle sont appelés Atakebune. Il semble que ce soit à cette période que le Japon développe les premiers navires cuirassés de guerre de l'histoire, quand Oda Nobunaga fait construire en 1576 6 Tekkusen, des bateaux cuirassés de fer. Ce sont des barges armées capables de vaincre les plus grands des vaisseaux ennemis. Ces bateaux sont considérés comme des forteresses flottantes plutôt que comme de véritables navires de guerre. Elles ne sont utilisées que dans des actions côtières. Le Japon construit ses premiers navires océaniques au début du XVIIe siècle. En 1614, le daimyo de Sendai construit le Sanran Botista, un navire semblable à un galion de 500 tonneaux qui transporte l'ambassadeur japonais en Amérique et qui, de là, part pour l'Europe. Toujours à la même période, 350 navires Shuinsen sont commandés à Bafuku, dotés d'un armement traditionnel mais incorporant quelques-unes des technologies européennes pour le commerce avec l'Asie. Quoi qu'il en soit, peu de temps après et pour deux siècles, le Japon opte pour une politique isolationniste qui interdit la construction de navires capables d'affronter l'océan. Les fonctions des navires évoluent peu jusqu'à la fin du XIXe siècle. La révolution industrielle déclenche par contre une explosion des différenciations. Le besoin d'avoir des bateaux de plus en plus efficaces pour les missions qui leur sont confiées, la fin des conflits systématiques pour la suprématie maritime, l'augmentation des capacités financières des puissances industrielles engendrent une prolifération de bateaux à usage de plus en plus spécialisés, autant dans le domaine de la pêche et du commerce que dans le domaine militaire ou de la croisière. On voit également apparaître des navires très spécialisés dans des fonctions nouvelles, comme les bateaux de sauvetage, les navires scientifiques, les bateaux pompiers. La puissance des nations se mesure à leur capacité à construire les navires militaires les plus puissants. Leur fierté les pousse à construire des paquebots de prestige gigantesques, comme le Normandie, le Queen Mary ou le France. L'idée de pouvoir aller sous l'eau prend ses racines dans la lointaine antiquité. La première trace vérifiée de tentative pour mettre cette idée en pratique semble être celle d'Alexandre le Grand, qui, selon Aristote, développe un submersible pour des missions de reconnaissance en 332 avant Jésus-Christ. Un engin un peu similaire est réalisé en Chine vers 200 avant Jésus-Christ. Mais la première conception effective est de William Bourne, qui dessine un prototype de sous-marin en 1578. Son idée n'est malheureusement pas développée. Au XVIIe siècle, les Cosaques utilisent une sorte de barque fluviale renversée appelée Chaïka, utilisée sous l'eau pour la reconnaissance des infiltrations en territoire ennemi. Le modèle semble être réalisé sur la base des descriptions d'Aristote. Les Chaïkas peuvent être submergés, l'équipage pourront continuer à respirer dans les poches d'air contenues dans la barque et déplaçant la barque en marchant au fond de l'eau. Les tuyaux dépassent de la surface permettent de renouveler l'air. Le premier sous-marin est construit en 1620 par le Hollandais Cornelius Jacobson Drebbel sur la base des dessins de Bourne. Il est propulsé à l'aide de rames. La nature précise de l'engin est sujette à controverse, certains prétendant qu'il s'agit en fait d'une cloche de plongée. Deux exemplaires sont réalisés entre 1620 et 1624. Même si les premiers sous-marins ont pour objet d'observer les fonds marins, il ne faut pas longtemps pour que les militaires perçoivent tout le potentiel d'un tel engin. Le premier sous-marin militaire est la Tortue Turtle de l'américain David Bushnell, capable de se déplacer de façon autonome sous l'eau à l'aide de vis hélicoïdales. Robert Fulton réalise en 1800 en France le Nautilus. Il démontre sa capacité à poser des mines pour détruire des navires ennemis. Pendant la guerre civile américaine, les fédérés lancent un sous-marin sur la base d'un concept français, l'Alligator, chargé à l'air comprimé et équipé d'un système de filtration de l'air. Il est équipé d'un sas permettant à un plongeur de placer une mine à détonateur électrique sur les vaisseaux ennemis. Il est rapidement équipé d'une propulsion à vis actionnée manuellement. Il mesure 14,3 mètres de long et peut accueillir un équipage de 20 hommes. Il sera suivi de nombreux autres exemplaires et si leur impact sur la guerre civile est faible, ils démontrent tout leur potentiel militaire. Le premier sous-marin à ne pas dépendre de la force humaine pour la propulsion, c'est le plongeur. Est lancé par la marine française en 1863. Il est propulsé à l'air comprimé par 23 réservoirs à 180 bars. Le premier sous-marin à propulsion motorisée, c'est l'Igneteo 2, lancé en 1867 par Narcisse Monturiol en Espagne, suivi en 1888 par le sous-marin à propulsion électrique de l'ingénieur espagnol Isaac Peral. Viendra par la suite les sous-marins nucléaires, toujours d'actualité. Que cela soit pour le commerce, l'exploration ou la guerre, l'homme a réussi à concevoir des navires pouvant traverser les océans, domptant les eaux jusque dans leurs abysses. De l'Antiquité à la Renaissance, en passant par le Moyen-Âge, les hommes ont pratiqué la navigation. L'histoire recèle de légendes et récits racontant les exploits de ces aventuriers des océans sur des navires à voile ou sur ces premiers hommes à explorer les fonds marins. En passant par l'imagination, le rêve, comme les récits de Jules Verne et son Nautilus. Car c'est souvent de ça qu'il est question au départ. Dans toute idée, dans toute invention, il est toujours question de rêve, de soif, de comprendre, de connaissance et de découverte. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers le temps. C'était Erwan, capitaine de bord de l'Odysseus. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur radioactive.com ou sur la page Facebook de l'émission. Au revoir. All of our memories.
choice. Guide all of our memories.